Dieu, je te remercie pour ce culte ce matin. Nous venons pour te rendre gloire, pour t'adorer, mais aussi pour apprendre de toi les choses que tu veux que nous sachions, afin de pouvoir vivre quelque chose qui te glorifie. Merci Seigneur de bénir ceux qui ne sont pas présents au milieu de nous. Je pense particulièrement à Michou, à Priscille. Merci Seigneur, si j'en oublie, je te demande pardon, mais Seigneur, je sais que tu bénis chacun et chacune. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Et tu es pas bien ce matin, voilà. Il est parti en stage, mais quelle horreur. Bon, puis le week-end prochain, c'est Stéphane qui part en stage, donc on n'aura pas une affaire ploum, ploum, ploum. On va se débrouiller. Ben, tiens. Hein, faudra vraiment répéter, hein. Bon, on devait avoir des invités, mais on leur a dit, venez pas, mais un autre jour. Bon, le voilà. On fait quelque chose encore? Le 14, ah, c'est mon préféré. Jésus vit aujourd'hui et toujours. Amen. Et puis, ah oui, les mesmes, que Dieu bénisse les mesmes. J'avais oublié les mesmes. Non, ça fait un sacré paquet, les mesmes. Alors.
Jésus vit aujourd'hui et toujours. Tout à fait, est-ce que célébrons sa gloire? Jésus vit aujourd'hui et toujours. Et je chante en ce jour son immense amour. Il a créé le monde par sa grande puissance, et l'infini du ciel par son intelligence. Jésus vit aujourd'hui et toujours. Toute la terre et les cieux célèbrent sa gloire. Jésus vit aujourd'hui et toujours, et je chante en ce jour son immense amour. Il rassasie mon âme dans tous les lieux arides, et ma vie s'épanouit chaque instant près de lui. Jésus vit aujourd'hui et toujours. Toute la terre et les cieux célèbrent sa gloire. Jésus vit aujourd'hui et toujours, et je chante en ce jour son immense amour.
Merci les musiciens, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Comme je suis en train de faire des copies des bandes VHS en DVD, hier j'ai regardé une vieille prédication que j'avais faite chez Forchelet qui s'appelait « Il n'y a pas de repas gratuit », vous vous rappelez de ça? Et puis je nous ai vus en train de chanter. Ben, c'était très joli, hein? C'était très joli, c'est bien. Je suis content qu'on ait de nouveau des guitaristes, les Navez avec nous, parce que c'est vrai que c'est très joli la guitare aussi, hein? C'est pas qu'on n'aime pas le piano, mais c'est vrai qu'une guitare, et il faut aussi un violon, Edith. C'était bien un violon aussi, hein? Et Léon à l'accordéon. Voilà. Ce serait bien quand même que, n'est-ce pas? Et puis les enfants, c'est quand qu'ils apprennent un instrument comme... Il y en a qui apprennent le piano, mais bon, la contrebasse, il n'y en a pas un qui voudrait faire la contrebasse, hein? Non? Simone ne se voit pas faire ça, non? C'est trop grand. Bon, on peut... Alors, il y a d'autres instruments, il y a la flûte, oui, bon. Moi, j'aime bien l'harmonica, non? Hein? Pour faire un peu du country, pour plaire à Marc, il adore le country. Bonjour à tous, et bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, c'est certainement le dernier dimanche où on ne fait pas de chauffage dans la chapelle, hein, parce que vous, n'est-ce pas, je vois que vous êtes tous emmitouflés, là. Je dis ça aussi pour nos amis africains qui nous écoutent. On va lire 2 Thessaloniciens 2:10. Alors, la Michou vous salue bien, elle m'a dit, ça y est, je suis rentrée dans la civilisation. Elle est toute contente, elle a passé un moment formidable, je vais la chercher demain soir au train, elle est très heureuse, tout s'est bien passé. Il y a Cathy qui n'est pas très bien, elle a un peu mal à la gorge, que Dieu la bénisse. Et voilà, bon, mal à la gorge, c'est pas trop trop grave, on priera tout à l'heure pour notre sœur Sandrine, pour un problème de sinus. Amen. 2 Thessaloniciens 2:10. Alors, je ne lis pas tout le verset, je lis à partir de « Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. On peut dire, voilà, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Bon, ben voilà, ils ne l'ont pas reçu, quoi. L'air de dire, Dieu ne leur a pas donné. Non. Si on comprend bien le texte, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu, c'est-à-dire, moi, je vous fais un cadeau, vous n'en voulez pas, vous ne le recevez pas. Alors, puisque vous ne recevez pas l'amour de la vérité que Dieu vous donne, alors il vous envoie un esprit d'égarement pour que vous croyiez au mensonge. Et puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Amen. Amen. On peut rentrer, c'est fini. Là, non. Non. On va développer ça. Avec la prédication de vendredi, vous rappelez, la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil. Alors, qui c'est qui pense qu'il a une poutre dans l'œil? Bon, c'est bien, il y en a deux ou trois qui ont suivi vendredi. On a tous une poutre dans l'œil. Mais ce qui est rigolo, c'est que Jésus dit que vous avez une poutre dans l'œil, il dit que moi j'ai une poutre dans l'œil. Et puis que j'essaye d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Mais au voisin, il lui dit, t'as une poutre dans l'œil. Et il dit au voisin, c'est Michel, j'entends, il n'a qu'une paille, toi t'as une poutre. Vous voyez, donc, il faut que nous réfléchissions, il faut qu'on pense à soi-même. Hein. Soi-même, il faut qu'on considère notre problème comme important, comme une poutre, et non pas comme une paille, un petit machin, rien du tout. Il faut regarder les choses en face. Aimer la vérité. La vérité, c'est qu'on a une poutre. Les gens qui n'aiment pas la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour. Ils peuvent tourner autour 15 ans, mais ils n'atteignent jamais le centre. Jamais. Ils tournent autour. Le centre, c'est là qu'est la vie, le vécu. C'est là qu'est la réussite, c'est là qu'est le succès. Pas seulement le succès spirituel, mais aussi le succès professionnel, le succès sentimental, le succès... N'importe quoi, dans n'importe quoi, il y a un centre. Puisque tout ici-bas tourne, d'accord? Ça tourne, c'est qu'il y a un centre. Je vais vous raconter une histoire. C'est le docteur Navo. S'il écoute Internet, il va être content, je parle de lui, vous voyez? Je sais des choses hein, qu'il fait, le monsieur Navo. Un jour, il est allé, là, il n'y a pas longtemps, chez quelqu'un, dans une ferme, parce que le mari a appelé, il a dit, voilà, j'ai ma femme qui est très malade, je ne sais pas ce qu'elle a, il faut que vous veniez. Alors, il est allé, il arrive dans la ferme, et puis le mari, il reste dans le salon, vous savez comment c'est, les paysans, très pudiques, tout ça, donc le mari, il attend dans le salon, Navo rentre dans la chambre de la malade, et puis au bout de 2 minutes, il revient et dit, vous n'auriez pas un tire-bouchon? Alors, le type, il dit... Un peu étonné, oui, il donne un tire-bouchon à Navo. Puis Navo retourne dans la chambre de la malade et 5 minutes après, il revient et dit « J'aurais besoin d'un tournevis, s'il vous plaît. » Il commence à être inquiet, le mari. Il dit rien, il donne un tournevis. Et puis, 2-3 minutes après, il revient et dit « J'aurais besoin d'un ciseau, puis donnez-moi aussi un marteau. » Ah, ça m'était trop, le mari est complètement affolé. Il dit « Mais là, quoi ma femme, vous ayez besoin d'un tire-bouchon ?» D'un marteau, d'un ciseau, d'un tournevis, mais elle a quoi ma femme? Oh, rien, je sais pas. J'ai pas encore réussi à ouvrir ma valise. Et trop de chrétiens sont toujours en train d'essayer d'ouvrir leur valise. En fait, je dirais même plus, non seulement ils ne sont pas capables de l'ouvrir, mais ils ne veulent pas l'ouvrir. En réalité. Et tous ces trucs, ces tire-bouchons, ces tournevis, ces ciseaux, ces marteaux, toutes ces agitations, tout ça, tout ce qui transporte, tout ce qui balade, tous ces machins, c'est pour la frime. Ils ne veulent pas ouvrir leur valise. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle sera ouverte, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Frères et sœurs, on est tous malades quelque part. Quelque part, comme dirait Edith. On a tous besoin d'être examinés. Et moi, je vous dis, c'est vous-même qui devez vous examiner. C'est vous-même. C'est vous-même qui devez regarder en vous-même. Tout ce que vous faites, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous pouvez être peintre, vous pouvez être commerçant, vous pouvez être comptable, vous pouvez être jardinier, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être postier, vous pouvez être vendeur, vous pouvez être tout ce que vous voulez. En fait, vous ne l'êtes pas, c'est votre monde extérieur. C'est vos marteaux, vos tire-bouchons, vos ciseaux, vos machins. qu'il faut voir, c'est l'intérieur. Et c'est pourquoi si peu de gens sont si peu disposés à rester tout seuls, sans rien faire. Parce que ça les effraie. Parce que lorsqu'ils sont seuls, ils se rencontrent eux-mêmes et ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Ils n'acceptent pas d'être ce qu'ils sont. Alors beaucoup boivent. Parce qu'ils ne supportent pas, ils ne se supportent pas. Ils se droguent ou alors ils s'étourdissent dans toutes sortes d'activités inutiles. La Bible dit, ils s'occupent de futilité, 2 Thessaloniciens 3:11. Ils remplissent des tonnes de papier. Ils lisent des bouquins pendant le tiers de leur vie. Font des jeux. Quand vous êtes seul, vous êtes avec vous-même. Et quand vous êtes avec vous-même, la réalité peut faire irruption. Et c'est pourquoi vous voyez souvent des gens qui sont hyper actifs, hyper activés, hyper occupés. Mais occupés à quoi ? À des futilités. Des choses qui n'édifient pas, qui ne rapportent rien, ni profondeur spirituelle, ni du pognon, même pas du pognon. Juste une fuite pour ne pas être triste. Parce qu'inoccupés, ils sont tristes. Et c'est l'état des gens dans les églises à l'heure actuelle, dans notre âge, dans notre septième âge, c'est vrai. Ils s'agitent. Jésus dit, Apocalypse 3:15, « Je connais tes œuvres, ce que tu fais, mais ce que tu es, tu n'es ni froid, ni bouillant. Je connais ce que tu fais, mais ce que tu es, je le sais. » Et il dit que c'est comme une sorte de folie. Une folie. Je dis, frères et sœurs, qu'il y a dans les lieux célestes des autorités, des puissances, des dominations mauvaises. La Bible en parle, qui pousse le peuple de Dieu, mais aussi les peuples dans le monde, à devenir fous. Pas d'activité professionnelle. Il pousse le monde à avoir de moins en moins d'activités. On ne fait rien. On laisse soi-disant du temps pour les loisirs. Rien qui valorise véritablement l'homme, le chômage. Et tout ça, avec tout ça, la vraie nature profonde se révèle. Et c'est, ce qui apparaît, c'est une sorte d'abrutissement généralisé de la société. Vous n'avez pas remarqué ? Et dans l'Église, eh bien, c'est le même esprit de tiédeur qui pousse à un activisme inutile plutôt qu'à des actions de foi basées sur les Écritures. Un homme, une femme sensée, la Bible dit, les insensés disent il n'y a pas de Dieu. Un homme, une femme sensée, quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu et qui vit selon Dieu, même s'il reste seul longtemps, ne va pas devenir fou. Mais le monde devient fou globalement, les gens dans les églises deviennent fous globalement. Pourquoi ? Parce que ce sont des fous à la base. Et leur occupation ne fait que de masquer cette réalité. Ils sont fous à la base, et ça vient à la réalité. Parce qu'il y a de moins en moins d'activités dans les églises, il y a de moins en moins d'activités, les gens sont juste là, posés leur derrière dans les églises, et puis ils pensent que c'est ça la vie d'église. C'est difficile de se regarder. Mais par contre, on peut regarder les autres. Et si on regarde les autres, par exemple, vous allez voir, les gens, ils s'occupent continuellement d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font en réalité ? Eh bien, ils concentrent tout leur esprit sur l'argent, comment gagner de l'argent. Et pour quoi faire ? Pour échapper à eux-mêmes. Ils y pensent le jour, ils en rêvent la nuit, ils pensent à l'argent tout le temps. Mon bon argent, l'argent, l'argent. Mais que font-ils avec cet argent ? Qu'en faire maintenant qu'il y a de l'argent ? Que faire avec cet argent ? Eh bien, vous les regardez, quand ils en ont, ils s'occupent d'en avoir plus. Parce qu'en fait, l'argent, ce n'est pas ce qu'ils attendent vraiment, Parce que sinon, quand ils l'encaisseraient, ils seraient contents. C'est pas ça du tout. Ils sont pas satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. Ils sont pas contents. Ils en veulent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et pourquoi ils ne sont pas satisfaits ? Parce que leur motivation de base, c'est d'être occupés. C'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'être occupés. Alors ils s'occupent à faire de l'argent. Et c'est pourquoi ils sont malheureux. Parce que ils sont malheureux parce qu'ils ne se font pas face à eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors ils essaient d'avoir une valeur avec l'argent, d'autres une valeur avec toutes sortes d'autres choses. Je prends l'argent parce que Jésus dit c'est l'argent ou moi, donc je prends les deux extrêmes. Rester sans rien faire, vous allez voir, vous allez vous éveiller. Hein. Rester sans rien faire. Vous asseyez. Il ne faut pas se coucher, parce que si vous vous couchez, vous allez vous endormir. Et là aussi, c'est une façon de s'occuper. Hein. Beaucoup de gens s'occupent à dormir. Pour fuir justement qui ils sont. Non, vous asseyez, pas trop confortablement, hein, mais vous asseyez, vous prenez pas un tricot, mesdames, vous prenez pas un stylo, vous prenez pas un verre, vous restez sans rien, même pas une Bible, rien. Vous restez sans rien faire et vous allez vous réveiller, voir ce qu'il y a réellement en vous. Une personne qui se consacre à Dieu, quand elle fait ça, elle se met à méditer. Les autres, ils deviennent fous. Alors, ils se lèvent, ils ne restent pas comme ça, ils ne supportent pas. Ils allument la radio, ils allument la télé, ils font quelque chose, ils bougent. Les gens s'épuisent au travail pour pouvoir se réfugier dans le sommeil. Beaucoup font ça. Maintenant, regardez les gens, je parlais du chômage, mais regardez les gens au chômage ou à la retraite. Eh bien, il y a quelque chose en eux de détraqué. Pas de Tennessee, hein, de détraquer, c'est autre chose. Ils peuvent avoir été n'importe quoi, président de la République, chauffeur de bus, ce que vous voulez, n'importe quoi. Mettez-les à la retraite et voyez ce qui se passe. Eh bien, leur état se dégrade. Parce qu'ils n'ont plus ou parce qu'ils ont moins d'occupation. Et comme ils ont moins d'occupation, moins de personnes s'intéressent à eux. Ils n'ont plus rien sur quoi concentrer leur mental, alors ils se dégradent. Pourquoi c'est si difficile de se retrouver tout seul avec soi-même ? Question. Si c'est si difficile de se retrouver avec soi-même, réfléchissez un peu. Pensez-vous que c'est normal que les autres soient heureux avec vous ? Vous-même, vous ne vous sentez pas heureux tout seul avec vous-même, et vous voudriez que les autres soient heureux avec vous. C'est pas possible. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il être heureux en votre compagnie si vous-même vous n'êtes pas heureux dans votre propre compagnie? Savez-vous pourquoi certaines personnes qui n'ont aucune envie, aucune vie profonde, spirituelle, de communion avec Dieu, arrivent à supporter les gens insupportables? Parce qu'il y en a, hein. Eh bien, c'est parce que les gens insupportables leur donnent de quoi s'occuper. Et après avoir eu plein de problèmes, ils vont parler des problèmes qu'ils ont eu avec ces gens insupportables. Et ça les occupe. C'est un vice encore de plus. Vous voyez comment, quand la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, parce qu'il n'y a rien de plus tortueux que le cœur de l'homme, c'est vrai. Et même tous ces gens qui font de l'humanitaire et toutes ces choses merveilleuses, c'est pour s'occuper. Beaucoup, 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 beaucoup. Ce n'est pas un signe de spiritualité du tout, du tout, du tout. Et voilà pourquoi Jésus dit une chose que j'ai mis longtemps à comprendre dans Matthieu chapitre 24, 37, 39. Je vais vous le lire. Matthieu 24, 37, 39. Il dit 38 déjà. Car les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour de Jésus alors, etc., etc., etc. C'est-à-dire que ils sont en train de manger, de boire, de se marier, hein, et puis de marier leurs enfants, voilà, super. Est-ce que c'est mal de faire ça? On dirait que Jésus le reproche en disant, là, hein, est-ce que c'est mal? C'est mal quand on fait ça pour s'occuper parce qu'on ne veut pas servir Dieu. On doit bien manger. On doit bien boire. C'est normal de se marier. J'ai rien contre le mariage, même mixte. J'ai rien contre le mariage. Mais cela ne doit pas être un but dans la vie pour s'occuper, pour ne pas servir Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu. Ça ne doit pas être la raison, ça ne doit pas être le but de notre vie, le pourquoi de notre existence. Cela doit résulter d'une vie consacrée à Dieu. Boire, manger, tout ça c'est un plaisir. Être marié, c'est un plaisir. Des fois. Pauvre tout le monde, il paraît. Mais ça ne doit pas être ça, mes délices. Le boire, le manger, le mariage, les enfants, les petits-enfants, bien sûr, c'est délicieux, c'est formidable, c'est merveilleux. Et il y a du vin plus ou moins bon, comme il y a des maris plus ou moins bons, comme il y a des femmes plus ou moins bonnes. C'est pourquoi il vaut mieux pas boire du vin si ce n'est pas du bon vin. Ça ne doit pas être ça, mon délice. La Bible nous montre le chemin. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire du bon vin. C'est-à-dire de la bonne nourriture et c'est-à-dire une bonne femme ou un bon homme. Mais fais de l'Éternel tes délices d'abord. Alors, bon. Venir à soi-même n'est pas un objectif éloigné. Et c'est pourquoi, c'est par exemple quand on dit aux gens, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ah, c'est si facile. Oui, justement, c'est parce que c'est si facile que c'est si difficile. Et la même chose pour rentrer en soi-même. C'est tellement proche de nous, c'est tellement près de nous. Entrez en vous-même. Votre valeur, elle va se montrer dans vos moments de méditation, seul et sans rien faire. Mais sans rien faire. Vous allez me dire, ah bon, avec tout le travail qu'il y a à faire. Oui, mais c'est nécessaire de temps en temps de rien faire. Mais rien. Même pas lire la Bible. Rien. Même pas prier. Rien. Faisons face à la réalité toute crue maintenant. Ce que vous faites, ce que vous êtes, je parle pour moi, hein, est-ce si important? Est-ce si important? Frères et sœurs, le monde s'arrêtera-t-il quand je vais mourir? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit non? C'est le monde, je veux que le monde s'arrête, moi. Lorsque vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passait? Ben, le monde était juste un petit peu plus tranquille, c'est tout. Et quand je ne serai plus là, eh ben, il y aura un peu moins de soucis dans ce monde, c'est tout. Je lisais il n'y a pas longtemps quelque chose sur Napoléon. C'est un homme extraordinaire, on en parle encore, on fait des films, l'histoire a été marquée par cet homme extraordinaire, il y a encore laissé des traces terribles, c'est formidable, merveilleux, ça dépend de quel côté on regarde. Eh bien, quand il a été relégué dans son île là-bas, il n'était plus rien. Mais en fait, personne n'est jamais rien. On n'est rien. Écoutez bien ça. Alors, étant donné qu'on n'est rien, je crois que la moindre des choses, ça serait d'être au moins gentil. Cessez de vous occuper des pailles que vous voyez dans les yeux des autres. Déjà, ça serait pas mal. Beaucoup s'occupent de la paille qu'ils voient dans les yeux des autres pour ne pas avoir à s'occuper de leur poutre. Voilà tout. Bon, alors, je reviens à Napoléon. Savez-vous que Napoléon, pendant 6 ans, là-bas, sur son île, il n'a pas changé d'habit. J'étais stupéfait quand j'ai appris ça. À la fin, au bout des 6 ans, ses habits étaient crades, usés, troués. Et vous savez-vous, c'est pas parce que l'État ne voulait pas lui donner des habits. Il recevait des habits pour être correct. Mais lui, il voulait mettre que des habits d'empereur, parce que pour lui, il était empereur. Mais empereur de quoi? Il s'est installé comme ça dans la maladie. Il avait un médecin avec lui. Savez-vous, un jour, ce que son médecin a écrit, il avait écrit un journal, il a écrit « J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment malade. La maladie n'est pour l'instant qu'une occupation. » C'est-à-dire comme il ne pouvait plus s'occuper de son empire, des autres, eh bien, il s'occupait de son propre corps, et son corps est devenu l'autre dont il s'occupait. Ses habits, son bobo, son machin. Et beaucoup de chrétiens sont malades pour s'occuper. Les psys disent que 50% des maladies n'existent qu'en tant qu'occupation. Il y a une petite revue qui vient de l'Avenoise, je vous dis des choses comme ça. Avant de mourir, Napoléon, il a donné les ordres dans le détail sur la façon dont devaient lui être rendus les derniers honneurs. Il voulait mourir en empereur. Il est mort en empereur. Mais un empereur de rien, parce qu'en réalité, personne ne s'est intéressé à ses ordres. Napoléon a toujours été le même. Et la société lui a offert une fiction. La société a approuvé qu'il soit empereur. La société vous offre votre fiction. Vous m'offrez cette fiction, je suis pasteur, c'est une fiction, c'est pas ce que je suis réellement. La société, il n'était pas empereur, qu'était-il? Qu'est-ce qu'il était? Il l'a sans doute jamais su. Savez-vous ce que vous êtes? Savez-vous ce que Dieu attend de vous sur la terre? Alors maintenant la question, je reviens, aimez-vous la vérité? Si oui, entrez en vous-même. Ôtez la poutre qui vous empêche de voir la vérité. Parce que la poutre qui est dans votre œil, ce n'est pas votre péché. Là, beaucoup de gens pensent, voilà, la poutre, c'est mon gros péché avec lequel je suis en train de mourir. Parce qu'on a tous, quand on s'est converti, on avait des péchés, puis bon, alors on s'en est débarrassé, puis il y en a un, vous n'avez pas remarqué? Il y en a un, mon Dieu, on se le balade. Voilà, tout le monde dit ça, c'est ma poutre. Ou alors il y en a qui disent, c'est ma croix. Remarquez, c'est une poutre aussi, la croix. Hein. Ôtez la poutre qui vous empêche de voir la vérité. Jésus est la vérité. Mais est-ce que tu en fais partie? La Bible dit oui. Être en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus? Ou Jésus en toi? Qu'est-ce que ça signifie Jésus en moi? Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, qui était Paul? La vérité. Si ce n'était plus lui qui vivait, si c'était Christ qui vivait en lui, et si Christ est la vérité, qu'est-ce qu'était Paul? Qu'est-ce qu'on voyait? La vérité. Et ça, les chrétiens ne veulent pas. Être Jésus réincarné. Ah non, on ne veut pas ça. Cette réalité fait peur, parce qu'elle semble lourde d'exigences. On sait que on ne peut plus, comme Thierry disait il y a quelques jours à quelqu'un, quand on est en Christ, quand on est dans l'Église, quand on est dans la communauté, on ne peut plus rien faire à titre privé. On est représentant. On est des envoyés de Dieu. On est représentatif. On est regardé, on est observé, on est épié par les démons et par les gens, et par les anges aussi. On me dit, oui, mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire je suis la vérité? Ça peut paraître prétentieux, c'est vrai. Mais pensez-y, préféreriez-vous dire je suis le mensonge? Es-tu froid ou es-tu bouillant? Es-tu vérité ou es-tu mensonge? On peut pas être au milieu. On me dit, justement, il n'y a pas un milieu. Il n'y a pas un milieu, il n'y a pas un juste milieu, quelque chose de un peu plus humble quand même. Eh bien, le juste milieu, c'est votre chair. Votre chair, ce n'est pas vous, c'est le machin dans lequel vous vivez. Pour prendre un mot du général de Gaulle, le machin. Votre chair, c'est-à-dire votre corps avec ses tendances, avec ses faiblesses, avec vos capacités et vos incapacités naturelles, avec vos tares, j'aime bien ce mot parce que j'ai vu, il est dans la Bible, dans les Bibles version moderne, avec vos tares. Et cela, vous devez non pas lutter contre, mais vous devez les accepter et les gérer. Je vous l'ai déjà dit. En douceur, avec amour, avec respect pour vous-même et pour Dieu qui vous a créé tel que vous êtes dans un but. Marchant, c'est vrai, de progrès en progrès, ne n'étant pas complaisant avec vous-même en disant « Ah, ben, je suis comme ça, ben voilà. » Non. Aimez cette vérité que vous êtes. Parce que, en fait, ce que vous êtes dès l'origine, depuis que vous êtes sur cette terre, c'est ce qui fait que vous êtes devenu aujourd'hui ce que vous êtes. Traitez ça avec respect. Émondant ce qui doit l'être, traitant durement certains aspects qui sont peu louables, mais n'allez pas vous imaginer que vous allez être une autre personne. Vous devez gérer ça. Si vous pensez que vous allez devenir une autre personne, vous allez vous désespérer et vous allez remettre la poutre qui est dans l'œil pour plus voir. Et vous allez devenir des chrétiens refoulés à double vie, disant « Jésus m'a sauvé, je suis une nouvelle créature, alléluia !» Puis vous-même vous dites « Ouais, moi je sais comment... » Oui, bon, c'est une parole de foi. Vous êtes ce que vous êtes, et vous avez à aimer Dieu et les autres sans tricher sur ce point. Ne dites pas comme l'autre « Maman, bobo, allô maman, bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau ?» Il m'a fait avec des petits bras, il m'a fait avec des petites jambes, avec une petite tête. Tricher, ce n'est pas faire preuve d'amour pour la vérité. Comment aimez-vous les autres? Eh bien, est-ce que vous aimez les autres en ayant d'eux une image erronée que vous vous êtes fabriquée? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils s'imaginent, alors ils idéalisent quelqu'un, puis après, au bout de quelques temps de vie commune avec, ils s'aperçoivent que c'est pas ça. Ils s'étaient fait une image eux-mêmes, ils désiraient que la personne soit comme ça, puis dans le vécu, ils s'aperçoivent que c'est pas ça, et voilà pourquoi tant de divorces, voilà pourquoi tant d'amitiés brisées. Est-ce que vous les aimez tels qu'ils sont, avec leur tare, avec leur caractère, avec leurs défauts? Si on n'aime que les gens riches, beaux, jeunes, c'est pas normal. Jésus veut que vous les aimiez comment? Il veut que vous les aimiez comme lui, il les aime. Est-ce que Jésus vous aime parce qu'il vous idéalise? Non. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime tel que vous êtes. Et il vous aide en douceur, avec le temps, à devenir tel qu'il veut que vous soyez dans l'éternité. Mais ça ne finira jamais sur cette terre. Alors aidez-vous avec amour à devenir comme lui. Aidez-vous vous-même. Ne vous rejetez pas. Ne vous méprisez pas. Ne vous auto-condamnez pas. Faites avec ce que vous êtes, avec infiniment d'amour, de patience, de pardon aussi, parce que c'est la chair est faible. Alors soyez patient, faites des progrès, soyez gentil avec vous-même. Ainsi seulement vous pourrez aimer les autres tels qu'ils sont. Parce que si vous ne vous aimez pas tels que vous êtes, vous ne pourrez pas aimer les autres tels qu'ils sont. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer les autres autrement que tu t'aimes toi-même. Et si tu n'aimes pas les autres, c'est la preuve que tu ne t'aimes pas toi-même. Quand tu dis sur les autres, eh ben tu es en train de te montrer toi, te couvrir de ridicule. Et le commencement de tout ça, c'est d'ôter la poutre qui est dans ton œil. Ta poutre, ce n'est pas ton péché, je répète. C'est juste ce qui t'empêche de voir juste. Alors, aie le courage de poser sur toi un regard lucide, plein de compassion. Comme Jésus, plein de compassion. Sans se faire d'illusions. Et ça, ça va te bénir. Et puisque tu seras béni, tu seras une bénédiction pour les autres. Voyez-vous, ceux qui rendent les autres responsables au sujet de tout ce qui leur arrive, les éternels incompris, personne ne m'aime, tout le monde est lié contre moi, il y a une cabale contre moi, ils font la preuve qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est tout. Pensez-y. Amen. Veuillez bénir ces paroles, Seigneur Jésus, et nous aider à, à apprécier et à aimer ce que tu as fait. Je suis tellement content d'être différent et tellement content de pouvoir m'habituer petit à petit à la personne que je suis et faire des progrès. Oh, de temps en temps, il y a des rechutes, mais faire des progrès quand même et essayer de te plaire. Merci Seigneur pour aussi mes frères et sœurs qui m'aiment, qui parfois me supportent, parce que c'est difficile de m'aimer toujours. Merci Seigneur parce que tu permets que je puisse parler avec certains en plus en profondeur, parce qu'ils ont plus de solidité. Merci Seigneur pour cette communion fraternelle que nous pouvons avoir ici au sanctuaire. Merci Seigneur Jésus parce que tout cela vient de toi et tout cela est parfait, tout cela est bon et j'aime cette vie. Merci Jésus. Merci de nous garder toujours fidèles. Protège-nous. Aide-nous Seigneur mon Dieu. Je te remets le reste de cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour. Sa force et son courage apaisent les orages de ma vie. C'est sa voix qui me guide vers l'avenir qui toujours me sourit. Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour. Sa paix et ses promesses me dis avec tendresse, je suis là. Tout au long de ta route, je retiendrai le doute loin de toi. Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur et mes yeux chaque jour resplendisse d'amour. Merci Seigneur parce que tu bénis cet argent qui a été semé et tu permets que mes frères et sœurs puissent être abondants. Merci Jésus parce que tu prépares un avenir pour nous. Tu as de bonnes choses en préparation et je te demande mon Dieu de vraiment nous ouvrir les yeux alors que nous avons enlevé cette poutre, de cicatriser ce qui doit être cicatrisé, afin que nous puissions voir clairement. Au nom de Jésus, Amen.